Bienvenue au Polysécure épisode spécial. Je suis avec Ingrid et Marina.
Bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien?
Ça va très bien. Et toi?
Oui, Ingrid.
Ben moi, ça va très bien. On t'a accueilli sur notre petit lieu de travail et de chercheur.
C'est tout à fait un énorme privilège d'avoir été accueilli ici, en ce lieu mythique maintenant. Et justement, ce lieu mythique, on va aborder un sujet complexe et amusant. Comment on réussit à prévoir l'imprévisible en cyber et comment le fait d'aborder tous ces éléments-là à l'intérieur d'un cadre PSSI, comment les humains sont rigides ou psychorigides pour faire un clin d'œil et comment on arrive dans cette situation-là et comment on peut se sortir de cette situation-là pour aller ailleurs et justement améliorer notre posture cyber et incidemment notre posture humaine.
Comme tu le sais, nous, on est très axés sur réduire les vulnérabilités associées aux facteurs humains et on est convaincu que l'humain n'est pas le maillon faible et qui peut devenir le maillon fort. En ce sens, en fait, sur la gestion de l'imprévisible, on travaille autour d'un triptyque qui nous tient à cœur, qui est percevoir, prise de conscience, agir, réagir, interagir. Et finalement, on se place beaucoup sur la prévention. Et la gestion de crise cyber est gérée par plein d'autres personnes et on leur laisse la liberté de gérer la crise cyber. Mais on pense, et c'est ce qu'on soutient, c'est que de travailler principalement sur la prise de conscience des enjeux et de la déculpabilisation de l'individu pour travailler par une fiabilisation sur le collectif, sur de l'amélioration continue. Sur toutes ces règles de fiabilisation par le collectif qui sont très bien maîtrisées par Marina et les sciences de gestion. Donc, on va pouvoir travailler sur comment j'accompagne mon collectif, ma masse, mais comment j'accompagne aussi mon leader, comment j'accompagne mon manager, parce que le leader n'est pas forcément le manager. Et puis, on va aussi travailler sur tout ce qui est formel, informel, et puis à un moment donné, la gouvernance, parce que la prévention, c'est aussi une histoire de stratégie, de positionnement, de soutien de la direction. Donc la prise de conscience se passe aussi ici. Et donc, c'est comment cette gouvernance va pouvoir avoir une vision partagée pour pouvoir après, derrière, faire de l'humain le maillon fort, parce que de toute façon, on le sait que seul, on peut pas grand-chose. Par contre, c'est bien à plusieurs, avec toute notre chaîne de partenaires. Plus je sécurise ma chaîne, plus il y a des chances que j'évite la crise.
J'aime bien l'idée de fiabilisation par le collectif. Pour moi, c'est un concept qui est nouveau, puisque je n'ai pas navigué dans des milieux qui favorisaient ce genre de choses-là. Ce que tu mentionnais, c'est essentiellement un corpus de connaissances qui est très fort au niveau militaire. Puisqu'il est intégré dans certaines façons. Donc, c'est de ce réveil-là de comment aborder ces concepts-là et les basculer en cyber, justement pour, un, transférer la charge de l'individu vers le groupe, pour que le groupe aide l'individu à se diriger, à se placer dans cet univers-là pour prendre des choix cohérents et des choix, justement, qui ne fassent pas que l'individu ait le poids lui-même de porter l'ensemble de la cyber sous ses épaules, parce qu'à l'heure actuelle, ce qu'on a tendance à faire, c'est que chaque individu, on le dit, on essaie de qualifier de maillon fort, mais en faisant ça en même temps, on le qualifie, on met tout le poids sur l'individu et non sur le collectif pour mettre ça en œuvre. Donc, ça devient un fardeau immense. Et pour beaucoup de gens, ils préfèrent se déconnecter de ce fardeau-là littéralement, donc de sortir de l'équation. Au lieu d'embarquer dans le volet collectif, que j'aime vraiment beaucoup comme approche, parce qu'on vient diffuser la charge sur l'ensemble. Donc, on est là pour s'entraider et non dénoncer ou agir de façon individuelle puis culpabiliser l'autre, même si on essaie de faire l'enfer de maillon fort. Là.
Concernant le collectif, moi, ce que je, en tout cas, ce qui est fondamental, je pense, pour moi, d'un point de vue management et organisation, c'est déjà d'avoir une connaissance de son organisation. Ingrid parlait tout à l'heure du triptyque, effectivement, de percevoir, de prendre conscience pour pouvoir ensuite agir, réagir, interagir. Ça suppose, dans un premier temps, d'être en capacité, finalement, d'identifier quels sont les atouts, les faiblesses, les opportunités et les menaces aussi d'une organisation. Donc, ça suppose avoir vraiment une bonne connaissance de l'environnement interne. Qui sont les personnes avec qui je travaille? Quelles sont leurs compétences, leurs connaissances? Est-ce que je suis en capacité d'identifier tel individu avec des compétences qui peuvent être transposables, par exemple, en situation de crise ou pas, pour pouvoir vraiment s'adapter à n'importe laquelle des situations? C'est aussi la connaissance de l'environnement externe qui va passer par l'identification des parties prenantes. Est-ce qu'elles partagent les valeurs de mon organisation? Est-ce qu'il y a suffisamment de communication avec ces parties prenantes? Est-ce que les parties prenantes interagissent avec l'organisation, etc., etc., de manière à pouvoir favoriser déjà un socle, c'est-à-dire en matière de culture commune, que ça soit en interne ou à l'extérieur, de développer finalement des valeurs aussi communes pour amener petit à petit à une co-construction d'une politique en matière de sécurité des systèmes d'information et en matière de cyber.
Mais en fait, quand tu regardes bien la cyber, la gestion, en fait, cette gouvernance, la vision stratégique, la fiabilisation par le collectif, c'est du sport collectif. Quand tu regardes le sport, bon bah nous on est très foot, rugby, voilà, en France, où vous êtes plus hockey, bah il faut bien pouvoir se poser la question de... En fait, la fiabilisation par le collectif, finalement, c'est pas que de la cyber, c'est pas que du militaire, c'est aussi le secteur santé. C'est de la prise en charge pluridisciplinaire. C'est apprendre à travailler avec l'autre. Donc, tous les flux d'informations, de communication, c'est savoir communiquer, c'est avoir conscience de l'impact de mon travail sur celui des autres. Donc, toutes ces petites choses qu'on sait faire dans les cœurs de métier, qu'on soit dans le sport collectif, qu'on soit dans la santé, qu'on soit dans différentes filières, bah, comment je les transpose finalement sur la question de la numérisation, puisque la cyber, c'est la numérisation. Et je pense qu'il y a vraiment un problème culturel. On nous dit qu'on est faible, que de toute façon, on ne peut pas maîtriser, que c'est une histoire d'ingénieur. Maintenant, en fait, c'est une histoire de méthodologie, de méthode de raisonnement et comment je gère une situation, comment je gère... l'imprévu, comment je gère les situations sous contrainte, les situations complexes. Et finalement, c'est une méthode de raisonnement. Et il ne faut pas chercher à anticiper et savoir avec précision ce que je dois faire. On peut prévoir des choses. Mais c'est une prise de conscience, c'est une méthode de raisonnement, c'est une capacité à réfléchir et à appréhender les signaux, qu'ils soient forts ou faibles, dans notre environnement. Et en fait, c'est très humain, puisque c'est apprendre à se reconnecter. Reconnecter avec mes partenaires, savoir avec qui je travaille. C'est refaire du lien avec qui suis-je. Moi, qui suis-je, mais avec qui je dois interagir. Qui sont-ils? C'est à un moment donné de revenir à l'essentiel qui est l'humain et détechnocentrer les discussions qui viennent créer de la peur, qui viennent créer du frein, qui viennent créer de l'enfermement et de l'ego en disant « Ah ben non, mais les autres sont dangereux, donc je me protège, je partage plus. » Et quelle perte d'efficience, quelle perte de performance, quelle perte d'opportunité. Et c'est anti-business tout ça.
Effectivement. Puis j'aime bien aussi l'approche volée de la sûreté, qui a une culture qui permet justement d'amélioration continue, où chaque personne dans le système est là pour aider un ses collègues, mais est là pour aider le système aussi si quelqu'un voit une anomalie ou un danger en devenir. En sûreté, l'employé se sent impliqué dans la mission d'améliorer la sûreté et non être comme un simple jeton, un chaînon dans cette séquence-là.
Et je crois qu'il y a une chose qui est importante pour pouvoir favoriser le collectif justement et toute cette cohésion et finalement créer des synergies et des interactions entre les individus. Je crois que la chose la plus importante que j'ai pu observer, c'est déjà que le leader finalement, le fondateur d'une entreprise, finalement soit aussi dans cette dynamique-là et adhère aussi à cette politique-là et à cette culture-là. Parce que les équipes au Rombo, par exemple, vouloir mettre en place ce type de politique et être dans des comportements de sûreté, si les fondateurs ne sont pas présents, j'ai pu observer que ça ne fonctionnait pas. Et je pense qu'il est vraiment nécessaire aussi que les dirigeants d'entreprise appuient ces politiques, justement pour entraîner aussi les individus qui forment leur collectif. Et il faut vraiment qu'il y ait l'adhésion de l'ensemble, donc de l'organisation, des entreprises. Mais le point de départ pour moi, ce sont les fondateurs et c'est par exemple le dirigeant d'une entreprise.
Oui, et puis il ne faut pas oublier que quand ils vont travailler sur leur vision, on n'arrête pas de dire partager votre vision, avoir accès à la connaissance. Si je garde la connaissance à mon niveau, c'est la problématique du petit chef. Le truc rédhibitoire pour l'efficience d'une organisation. La connaissance se partage pour pouvoir fédérer, parce que qui travaille, qui sont les exécutants? Ben c'est bien nos ressources, ce sont nos collaborateurs. Si à un moment donné, je garde la connaissance, comment eux vont trouver le sens? Comment ils vont pouvoir adhérer? Comment ils vont pouvoir s'engager, s'investir dans ma stratégie? Donc, il y a peu de chances que j'atteigne mes objectifs si je ne partage pas mes objectifs et si je ne donne pas le sens. Parce que au pire, s'ils ne retiennent pas la règle fixe, mais qu'ils ont une idée du pourquoi et qu'ils ont la vision, ils auront toujours l'esprit. Et ça veut dire qu'ils sauront rebondir en vue d'atteindre l'objectif qui est positif pour mon organisation. Si je ne leur donne pas, le problème, c'est qu'il y en a d'autres qui sauront leur donner de bonnes idées qui ne vont pas être les bonnes. Et donc, en fait, faut pas oublier qu'on a quand même une certaine proportion à diffuser la connerie plus rapidement que la chose intelligente. Donc, il vaut mieux partager la vision du chef, de dire « voilà la vision du chef », et ensuite, après, tout le monde s'y retrouve.
Et par rapport à la vision du chef, est-ce que il y a une question que je suis en train de me poser là, à l'instant T, peut-être aussi au-delà effectivement du chef qui va avoir tendance à trop vouloir diriger, à pas suffisamment déléguer, est-ce que une des clés, ça serait pas aussi que certains dirigeants acceptent aussi certaines peurs par rapport au risque numérique ? Pour pouvoir ensuite favoriser tout le développement d'une culture en matière de sécurité. Ce que je veux dire, c'est que j'ai pu observer des chefs d'entreprise qui avaient peur, en fait, de ces risques-là, ou qui ne les comprenaient pas, qui n'arrivaient pas à les appréhender. Et plutôt que d'essayer de comprendre, de favoriser des échanges, peut-être par égo, je parle de peur, mais je... Peut-être les raisons étaient tout autres. Est-ce que ça ne viendrait pas aussi de... Est-ce que le point de départ aussi ne viendrait pas, encore une fois, des dirigeants d'accepter aussi de ne pas détenir toute la connaissance et toute la compétence par rapport à ça?
Oui, mais alors dans ce cas, il y a aussi d'autres peurs, celles des experts cyber qui vont avoir peur de tout ce qui touche à l'humain parce que l'humain est très imprévisible et que la technique et la technologie, du fait qu'elle soit programmée, devient plus prévisible et donc peut être rassurante. Mais en même temps, un dirigeant devrait plutôt être intéressé par la question des facteurs humains, puisque lui, c'est son quotidien de gérer l'humain. Alors que finalement, sur les questions cyber, il va se retrancher devant des avis d'experts qui fuient l'humain, alors que lui, il est expert de l'humain en tant que dirigeant. Enfin, sauf si après on a des dirigeants quiches, ça arrive toujours. Hein. Mais ceux qui, voilà, ils ne sont pas tous quiches. Et en tout cas, l'humain,
heureusement,
Voilà, l'humain est quand même la ressource première d'une entreprise et d'une organisation, quelle qu'elle soit, parce que sinon, en fait, on manage des robots. Et donc, dans ce cas, en fait, le robot va être un très bon exécutant et peu d'imprévisible quand même. Oui, hein, vraiment un sérieux problème de paramétrage, oui, mais là, on en revient à un problème humain parce que le paramétreur est un humain.
Oui, après, il y a aussi la question, mais effectivement, ils sont là pour... ils sont au contact de toute façon de l'individu du collectif, ils sont là pour guider le collectif, mais après, il peut aussi y avoir parfois des écarts générationnels. On peut aussi avoir des dirigeants qui ne vont pas forcément avoir conscience de certains risques, qui ne vont pas vouloir peut-être les comprendre et s'en remettre, à, comme tu le disais, à des experts par rapport à tout ça, plutôt que d'essayer de déléguer à des personnes aussi en interne qui auraient peut-être la connaissance, la compétence, ou qui vont préférer balayer d'un revers de main le...
D'ailleurs, on peut le dire, là aussi, dans les croyances et dans les représentations et dans les peurs, messieurs, n'ayez pas peur.
Oui,
voilà, les femmes peuvent être aussi experts en cybersécurité. Il y en a quand même beaucoup. Et que, voilà, et que la cybersécurité n'est pas un sujet d'ingénieurs et d'hommes. Sinon, c'est avoir qu'une vision partielle du sujet. Et j'en parle sans problématique. Il n'y a qu'à regarder le nombre d'intervenants féminins à l'European Cyber Week. Quand on regarde le programme, c'est quand même encore très masculin.
C'est vrai. Et pourtant, nous aurions tout intérêt à fonctionner ensemble justement pour avoir des visions complémentaires parce qu'on a tendance à ne pas penser de la même manière et peut-être à ne pas... mettre en place des choses aussi de la même manière. Donc, on aurait tout intérêt vraiment à développer, à penser, à réfléchir des méthodes ensemble, justement pour être complémentaires.
Mais sont cachés. Faut les trouver. Je trouve ça un peu malheureux parce que ça n'envoie pas l'image publique et de l'importance de la contribution des femmes. Dans ma carrière, rencontré beaucoup de femmes. J'ai eu des femmes qui m'ont encadré dans des rôles d'encadrement comme manager et ont tous eu un impact positif sur leur organisation en cyber et ont su mener à terme des dossiers très intéressants et fait progresser l'état de l'art, si on veut, en quelque sorte, dans ces organisations-là. Donc, c'est un peu une dichotomie importante que je trouve un peu malheureuse d'ailleurs parce que ça ne sert pas le grand ensemble, un peu comme Marina disait, la contribution qui est très présente au niveau puis de la différence que c'est. Même si ce n'est pas très populaire de dire que les femmes et les hommes sont différents, la contribution devient... cette différence est importante et on la voit dans plusieurs domaines. Nous avons l'appétit au risque est différent entre les hommes et les femmes et c'est un facteur très biologique, très... comme ça, fait qu'on ne peut pas lutter énormément contre ça. Et en cyber, le risque est quand même une place importante et a des conséquences importantes. Il y en a qui sont plus peureux que d'autres, il y en a qui vont geler trop de risques, et ainsi de suite. Donc, dans ces mouvances-là, cette dualité-là est importante ou cette diversité-là est importante. Si on va aller plus loin que juste les genres, on peut aller plus loin. Donc, toute cette contribution multiple améliore le grand ensemble.
Ça commence aussi par rapport à la représentation des femmes, juste une chose pour rebondir, ça commence aussi dans l'enseignement. Il peut y avoir aussi parfois très peu de femmes dans certaines écoles qui vont enseigner notamment la cyber ou la sécurité numérique, tout comme dans les filières, quand on voit le nombre de jeunes filles qu'il peut y avoir dans les effectifs, justement dans ce type de... qui se dédient à ce type de métier. Donc, je pense que c'est important aussi que les femmes osent aussi aller enseigner pour montrer aux jeunes filles que c'est possible. Voilà, pour petit à petit rééquilibrer peut-être.
D'ailleurs, c'est cela. Très drôle parce que j'interviens hein, tout comme Marina dans l'enseignement supérieur et dans les filières numériques de l'enseignement supérieur. Très peu de femmes, parce que j'interviens dans des formations en intelligence artificielle ou de développeurs ou cyber, et peu de femmes. Et j'avoue que quand, comme quoi sur les représentations, en tout cas les jeunes filles en alternance que j'ai en cours, sont rattachés au ministère des Armées et en particulier dans l'armée de terre. L'armée de terre a quand même recruté pas mal de femmes, puisqu'en fait, le premier critère est la motivation. Parce que bon, de toute façon, un alternant, il est là pour débuter et pour apprendre. Et ils vont regarder la motivation et puis l'appétence pour un milieu qui est particulier. Et j'avoue que quand on va dans des rencontres numériques du ministère des Armées, en tout cas en France, c'est un des ministères où sur la question du numérique, il y a beaucoup de femmes. Je suis aussi beaucoup en lien avec le ministère de la Santé et sur les questions des systèmes d'information, de la numérisation. Il y a là aussi pas mal de femmes. Par contre, dès lors qu'on s'adresse à nos interlocuteurs industriels, on n'a que des hommes. Donc, en même temps, vu qu'on n'est pas satisfaite des réponses et qu'on les trouve imparfaites car pas très globales et très technocentrées, ben voilà, là je vais faire un petit peu de provoque, mais bon, tu me connais, je suis plus à ça près. C'est que finalement, les garçons se rassurent à qui a la plus grosse tech et le mur le plus infranchissable possible. Et messieurs, c'est pas qui a la plus grosse qui gagne. Donc, à un moment donné, un peu plus de vision globale. Et là aussi, il ne faut pas occulter la diversité des métiers qui contribuent à la cybersécurité. Ce n'est pas que les sciences de l'ingénieur qui contribuent à la cybersécurité.
Notamment, mais c'est parce qu'on oublie que la cyber n'est pas un axe vertical, mais c'est un axe horizontal d'une organisation. Donc, incidemment, il faut qu'on soit capable de toucher de façon horizontale. Et si on n'est pas capable de parler de façon horizontale, on va rester dans notre silo, on va rester dans notre filière et on ne sera pas capable d'aller plus loin. Donc, ce que tu dis, moi, essentiellement, c'est que ces hommes sont très verticaux, mais très, très peu horizontaux, ce qui peut poser certains soucis dans certains égards. Si on prend tes références, si on n'est que vertical, on n'ira pas bien loin. Donc, de ce côté-là, il faut ouvrir, oui, effectivement, il faut l'humain. Puis si on revient à la sûreté encore une fois, la sûreté a intégré l'humain dans la réflexion notamment et est sortie du milieu vertical de l'ingénieur, est allée plus loin parce que ce n'est pas l'ingénieur qui analyse le comportement des humains autour, c'est d'autres professions, d'autres métiers qui ont accompagné cet élément-là. Et l'ingénieur a servi à développer l'outil ou le mécanisme, comme en cyber, on va être bon pour développer le mécanisme technocentré, mais ça ne demeure qu'un outil pour nous aider à atteindre un objectif. Et cet outil-là, pris seul, ne sert à rien s'il n'est pas bien utilisé, s'il n'est pas bien mis dans son contexte, puis il peut même être dangereux s'il n'est pas bien mis dans son contexte.
C'est là où les sciences humaines et sociales, et notamment les sciences de gestion, parce que en fait, sciences de gestion, c'est du management, tout ce qui touche à la théorie des organisations et management. Et dans les théories donc, des organisations, c'est avant tout guider l'humain et justement considérer l'humain au sein de l'organisation. Donc, les sciences humaines et sociales peuvent être vraiment un appui pour pouvoir parvenir à une politique de sécurité numérique globale, avoir cette vision globale qui va considérer vraiment toutes les ressources de l'organisation et ses outils, mais en considérant aussi l'humain et en replaçant l'humain aussi au cœur de l'organisation.
Bah, d'ailleurs, on le voit, hein, parce que tous les petits génies qui viennent m'expliquer que l'humain est le maillon faible sont quand même des personnes qui viennent m'expliquer que si j'ai pas appliqué la procédure, ils jouent sur la culpabilisation. En même temps, j'ai envie de leur dire, mais mon gars, si j'ai pas appliqué la procédure, tu cherches à me culpabiliser, mais si ta solution avait été moins merdique, j'aurais peut-être pas eu besoin de la contourner. Parce que ta solution n'est pas adaptée à ma pratique professionnelle. Elle n'est pas adaptée à l'usage que je dois en faire. Donc, la contrainte étant trop forte, et d'ailleurs des fois la contrainte SSI peut créer un risque plus fort pour l'organisation que le risque cyber lui-même. Donc à un moment donné, moi je me retrouve des fois sur des dossiers où la vision, je vous raconte même pas de l'anti-sexu, enfin si je suis absolument pas sensuelle, pas intéressante et tout, c'est que je suis juriste et cyber, la psychorigide de base dans la définition du technocentré. Bon, à part ça, la psychorigide, elle commence à leur expliquer que leurs règles SSI, qui sont des documents internes, sont en fait dans ma hiérarchie des normes de juriste, le râle est pâquerette. Mais qu'à un moment donné, dans certaines organisations, j'ai un risque vital pour un opérateur. Est-ce que vous pensez pour un dirigeant qu'il va dire « Ouais, ok, on applique la règle SSI », alors que si j'applique la règle SSI strictement, je vais avoir un risque vital pour un de mes collaborateurs. Mais ils n'ont aucun souci à me soutenir. Non, mais la règle, c'est le SSI. Je fais non, prends du recul, reprends une vision globale. Si j'applique la règle, il a un risque de mort. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on sait le gérer dans plein de filières. En filière santé, la règle est la règle, le médecin, c'est son rôle de faire ça. Et en situation d'urgence, quand certaines conditions sont remplies, on va dire, oui, là, l'infirmière peut agir et peut faire les choses pour débloquer la situation, mais surtout pour éviter d'arriver à la gestion de crise par rapport à la prise en charge du patient. Et donc, dans des principes de qualité et de sécurité des soins, il y a la règle. Elle est générale, elle s'applique à tout le monde. Mais dans certains cas, on met en place une procédure dérogatoire à la règle parce que justement, ça va permettre de prévenir et d'éviter une crise et de trouver une solution dans l'organisation pour éviter d'avoir un événement grave.
Un événement plus grave que ce que la règle générale aurait voulu limiter. Et de toute façon, ça me fascine. Puis de toute façon, on en parlait en off. Quand cyber, on va préférer aller tout de suite en incident au lieu de gérer en amont, donc dans une forme de souplesse dans la règle générale ou un élément qui permet l'acte dérogatoire plus facilement et qui ne sera pas nécessairement puni. À l'heure actuelle, normalement, cyber, on punit très rapidement l'acte dérogatoire parce que celui-ci est pris comme étant un affront à une règle. Et je pense qu'en termes de psychorigide, t'es à ce sens beaucoup moins que ceux qui tiennent à leurs règles non, avec aucune capacité dérogatoire. Donc, c'est complètement débile. Puis ça me fascine parce que vendredi dernier, au moment de l'enregistrement, vous regarderez la date, j'ai rencontré un individu qui parlait d'une firme d'expérience client et on a échangé là-dessus. Et moi, j'ai dit, au cyber, je pars toujours de l'humain vers le système et non du système vers l'humain. Donc, dès lors, j'assure toujours que l'humain est fondamental à la conception du système et le système entoure l'humain et non l'humain est entouré du système. Fait que notre juste point de vue où on part, où on va. Et cette personne-là, elle ne fait qu'abonder dans le sens que je mentionnais parce qu'elle ne parle que de elle, son corps de médecine n'est que l'expérience client et comment celui-ci va améliorer l'expérience d'achat, par exemple. Et quand dans ce temps-là, il faut que l'expérience là en cyber soit d'égale qualité qu'on a le goût d'y participer à la cyber au même sens qu'on a le goût d'acheter chez Amazon, par exemple, parce que c'est quasi trop facile, il faut que la cyber soit dans la même réflexion. Donc, il faut qu'on ait réfléchi comment l'humain s'inscrit dans là-dedans et que de par lui-même va accélérer et améliorer la cyber sans qu'on doive le frapper à grands coups de sensibilisation puis à grands coups de campagne de phishing puis le faire souffrir. Mais on est bien mieux d'avoir des systèmes qui vont justement spontanément faire émerger de la personne de la cyber et non d'essayer de lui faire rentrer dans la tête à coups de marteau.
Bah, on en a déjà un petit peu parlé des fois dans d'autres épisodes, mais quand on dit qu'il faut capitaliser sur les atouts et quand nous, en tout cas avec l'équipe de chercheurs de Drift, on dit qu'il faut déculpabiliser l'individu pour libérer la parole et presque revendiquer un droit à l'erreur parce que c'est par là que commencera aussi l'amélioration continue, c'est qu'à un moment donné, quand les événements peuvent se produire dans une organisation, bah, tout de suite, on vient accabler. Mais en même temps, on se rend compte que dans la sensibilisation, on est sur une stratégie de la peur. Donc déjà, à la base, on va leur rappeler que les sanctions. Mais je suis désolée, la cyber, enfin, nous peut-être parce qu'on est hyper... Enfin, c'est pas qu'on est passionné, mais presque. C'est-à-dire qu'on trouve ça fun, on trouve ça passionnant. Et parce que finalement, c'est tellement riche, tellement vaste, et que bah, déjà pour en faire le tour, il y a de quoi faire. Mais finalement, si on a une vraie politique de sécurité numérique, finalement, on replace l'humain et en fait, on devient très humaniste et on a une vision plus positive de ce que pourraient nous apporter les technologies, mais c'est vraiment un changement de regard. Et quand les gens, d'un seul coup, on leur donne le goût parce qu'on va capitaliser sur leur marge de progression, plutôt que de leur dire « Ah là là, regarde, tu t'es pris au test de phishing, tu t'es encore viandé. » Donc en fait, il ne faut pas voir la cyber comme la distribution de claques, parce que ça, c'est contre-productif, mais plutôt sur la valorisation des petits pas et la valorisation des acquis pour motiver et encourager. Comment éduquez-vous vos enfants? Est-ce que c'est en distribuant des tartes toute la journée, en leur expliquant qu'ils sont mauvais? Ou est-ce que c'est en valorisant leur réussite et leur progrès?
Et même au-delà de ça, l'apprentissage se fait en faisant des erreurs. Et ça, c'est un élément très important, puisqu'on ne fait pas d'erreurs, on apprend peu ou pas. Et de là en cyber, c'est compliqué de faire des erreurs, parce que, surtout pour l'utilisateur final sur lequel il va avoir une claque, là, donc il va cacher, donc ne sera jamais capable de prendre de son erreur et de progresser. Et justement, d'aller plus loin avec cet élément-là et comment l'humain apprend. C'est fondamental. C'est comme ça qu'on est constitué. On fait une erreur. Quand on est tout petit, on fait une erreur. On fait plus l'erreur deux fois. L'erreur, elle a fait mal, puis on continue à progresser.
À les doigts sur la porte du four, on l'a tous fait, hein, mais qu'une fois.
Oui, mais en entreprise, l'erreur, quand tu parles d'erreur, je crois que c'est aussi culturel. Je suis pas certaine que ça soit encore quelque chose qui soit totalement accepté, justement, quand on souhaite transmettre des connaissances. Je pense que ça dépend aussi des pays, quelque part. Ouais, l'acceptation. Autant on est capable de le faire au quotidien, dans nos vies privées, autant dans la vie professionnelle et selon certains milieux, c'est parfois difficile d'accepter ce principe-là.
Ouais, mais après, il y a erreur et erreur. Faut pas oublier que des fois, l'erreur, c'est parce que j'ai oublié de te former et de te sensibiliser.
Oui, mais ça peut être aussi par un manque de... Oui, tout à fait, mais je pense aussi qu'il peut y avoir aussi parfois les causes par manque de moyens financiers, par manque de temps aussi, selon les secteurs. Tu peux très bien avoir des secteurs qui ont, ou en tout cas des structures qui ont complètement conscience que oui, elles peuvent être vulnérables maintenant, qui ne vont pas avoir forcément la capacité financière ou suffisamment de ressources en interne pour pouvoir, paradoxalement, trouver du temps pour former leurs équipes, ce qui est complètement contradictoire. On est bien d'accord.
Alors, juste ça pour moi, je ne peux pas l'entendre. Parce que je suis une ancienne RH et pas former son équipe, c'est juste envoyer son entreprise dans le mur. Voilà, parce qu'il faut quand même dire qu'en cybersécurité, 80% des connaissances sont accessibles gratuitement.
Oui,
c'est le prendre c'est le prendre conscience et qu'à un moment donné, je ne suis pas obligée d'envoyer en formation sur tout le monde sur 5 jours, plein pot.
Je suis d'accord avec toi sur ce point.
Mais en fait, c'est juste que là, le dirigeant n'a pas encore pris lui-même conscience des enjeux et qu'il ne sait pas, parce qu'il est encore sur une stratégie de peur et de crainte et de désinformation qu'entretiennent certains.
C'est ce que je disais tout à l'heure. L'effet aussi, ça part aussi du fondateur, du dirigeant d'entreprise, d'avoir cette prise de conscience. Maintenant,
t'as pas d'excuse sur ce truc-là parce
c'est
que
pas ça, c'est non mais parce que là moi
après on arrive à une l'observation mais après c'est d'ailleurs à chaque fois on nous le dit et tu t'es pris ton truc et tu as eu la crise à gérer parce que justement mais ça devient de la faute inexcusable pour moi ça devient de la faute de gestion. Un dirigeant qui est responsable et raisonnable, les sources d'information, et c'est pour ça aussi que j'en veux beaucoup à toute la désinformation qu'on peut voir sur les technologies, où on a aussi, pour pouvoir, bon, je suis désolée, je vais encore envoyer une cartouche, hein, mais bon, c'est qu'à un moment donné, pour vendre cher des produits, on va utiliser des éléments de langage qui vont faire que, oui, bien sûr, ça devient inaccessible. Mais bon sang, parlez simplement. Si vous voulez une appropriation et si vous voulez des usages propres, parlez simplement aux utilisateurs. L'adaptation de la communication, c'est la base. Donc pour moi, c'est pour ça que je dis choisir ses partenaires. À un moment donné, moi, quand j'ai un fournisseur qui vient m'expliquer à quel point je vais être dépendante de lui, bah, je fuis.
Quand tu peux.
Bah oui, bah alors dans ce cas,
c'est la question. Non, c'est la discussion qu'on a eue en off tout à l'heure, justement.
Ouais, quand tu peux. D'où l'intérêt de connaître le réseau d'acteurs, parce que tout le monde n'est pas malsain et qu'il y a des gens propres. Et il y en a beaucoup des professionnels qui travaillent proprement et qui sont transparents et qui amènent vers l'autonomie leurs clients. Parce que à partir du moment où on ne respecte pas ce principe d'autonomiser son client, c'est que soit lui, il a choisi complètement d'externaliser en disant « Écoutez, je ne veux pas m'embêter avec ça, j'externalise et c'est un choix. » Et donc, oui, bien sûr, il va être dépendant de son fournisseur. Maintenant, s'il n'a pas voulu externaliser complètement la mission, s'il veut qu'on forme justement et qu'on accompagne son organisation, c'est pas pour qu'il devienne la vache à lait. Et ça, pour moi, ça veut dire que c'est une personne malsaine, toxique et tout. Mais malheureusement,
donc on en revient à analyser ce que tu dis, le réseau d'acteurs aussi, être en capacité d'analyser aussi son réseau d'acteurs, son environnement, ses parties prenantes et peut-être aussi d'avoir
et d'où
des
l'approche,
méthodes.
Voilà, d'où l'approche globale sur laquelle Drift travaille, sur quels sont les outils et quelles sont les clés, comment je détecte, d'où le côté mieux se connaître. Mieux le connaître, quelle est la fiche d'identité, la fiche signalétique de points comme ça que je dois checker pour moi, en fait, par rapport à mon besoin à moi, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le besoin de l'organisation et non le besoin du fournisseur. Et à un moment donné, il ne faut pas oublier que ce n'est pas au client de rentrer dans la case, c'est au concepteur et au fournisseur de prévoir un produit adapté au client. Moi, trop de fois, je dois intervenir parce que ce qui crée la vulnérabilité, c'est d'avoir des outils inadaptés. Après, est-ce que j'ai les moyens d'avoir du sur-mesure ? Non. Mais alors, dans ce cas, quelles sont les règles que je prévois en interne pour me dire bah, je vais avoir un outil imparfait et quelle va être ma part d'acceptabilité, de contournement, de choses, pour qu'au final, bah, entre mon organisation et mon outil imparfait, quel est le consensus ? Mais ça doit être réfléchi pour ne pas être subi.
Ouais. Puis moi, dans ces éléments-là, et je partage énormément ça, ce que je trouve ironique, c'est que les malveillants s'adaptent à l'humain très rapidement. Les organisations, parce qu'on le prend comme des entrepreneurs, et qu'en enquête, ils ont atomisé ou délégué certaines tâches de leur élément, eux vont s'adapter rapidement. Et c'est très fascinant que les organisations ne puissent pas suivre un modèle qui, je ne dirais pas de voler les clients, qui est le modèle d'affaires des malveillants dans ce cas-ci, mais de voir que ceux-ci s'adaptent rapidement parce que c'est un élément fondamental dans le modèle d'affaires des malveillants. S'ils ne s'adaptent pas à leur clientèle, ben ils la perdent. Ce que dans le marché conventionnel, nous n'avons pas cette régulation automatique qu'on devrait avoir dans le libre marché. Normalement, devrait, si on n'est pas capable de s'adapter à nos clients, donc d'offrir un service qui est adapté, donc aux humains, on va finir par disparaître. Dans ce cas-ci, ça n'arrive pas en cyber. On maintient en vie des principes qui, pour moi, sont désuets depuis des années, ce n'est pas des dizaines d'années, qui vivent dans un univers qui n'existe plus, mais on maintient encore ces solutions-là. Puis en plus, puis on se défend contre des malveillants qui, eux, ont compris, eux s'adaptent. Fait qu'on se défend contre des gens qui font ce qu'on devrait faire depuis longtemps, puis de s'adapter ou s'ouvrir sur l'humain, pivoter en cas d'erreur, c'est pas grave, on continue, on va faire essai, puis on va faire d'autres choses, on va augmenter on va changer notre modèle d'affaires, on va former nos gens, ou peu importe l'avenue qui est à la disposition, on va s'adapter. Et on est dans des organisations qui sont excessivement rigides, et la cyber, tant qu'à moi, là, c'est le champion du psycho-rigide, parce que si on essaie de déroger quelque chose, on a changé une PSSI, là, on parle d'années. Quand le malveillant décide de voir, non, ça ne marche plus, bah, dans deux semaines, pouf, tout le système est changé. Quand nous, ça nous prend 2, 3, 4 ans de changer une PSSI qui a une importance fondamentale ou fondatrice pour le fonctionnement de la cyber en entreprise, qu'on n'est même pas capable de bouger à la vitesse que les autres ont. C'est une compétition qui me semble injuste. Puis qu'on on a cette, cette, rigidité-là qu'on affronte.
Et puis, il faut arrêter de penser dans le cyber que tout est prévisible, parce que finalement, il y a beaucoup d'imprévus, puisque c'est là, cette fameuse part d'humain. Et c'est vrai que ce qui déstabilise nos technocentrés qui sont là pour développer des solutions, c'est qu'à un moment donné, on dit bah, « là où il n'y a pas de solution, comment tu fais ?» Bah, il ne fait pas, en fait. Alors que les sciences humaines et sociales, bah, ils font. Donc, c'est un autre mode. En fait, c'est une méthode de raisonnement. Et en fait, quand on voit, comme pour les sportifs de haut niveau et tout, j'ai ma tactique, j'ai fait des schémas pour des schémas de jeu pour si j'ai telle situation, je fais ça, je m'entraîne, je fais de la tactique et tout. Mais n'empêche que le champion, si on regarde, c'est celui qui a su saisir une opportunité. Il y a eu une part d'imprévu, il a su la saisir et il y est allé. Et en fait, là, c'est plutôt une méthode de raisonnement. En fait, on est sur je dois savoir finalement quelles sont les questions à se poser pour arriver à une solution. Donc, ce n'est pas quelle est la procédure pour la solution, c'est quelle est la méthode de raisonnement par rapport à une problématique pour arriver à la solution. Donc, c'est un autre schéma de pensée, mais n'empêche que c'est ce schéma de pensée qui crée les champions. Donc, moi, comme quand je me lance dans une compétition et à partir du moment où là, on va, si on compare la numérisation à une compétition, j'y vais pas pour faire le dernier de la liste, quoi. Donc, si je m'engage, c'est que j'ai espoir d'arriver à des résultats. Donc, comment je me prépare, comment je m'entraîne, à un moment donné, mon équipe, je vais lui apprendre plein de schémas tactiques, je vais lui apprendre plein de procédures. Donc, OK, je te forme, je t'apprends les procédures. Mais en même temps, je veux avoir mon opportunité de médaille. Et c'est comment je vais t'apprendre à être autonome au moment où il faudra que tu auras le ballon ou tu auras le palais et il va falloir y aller. Parce que mon adversaire, il a tellement bien étudié mon jeu que de toute façon, toutes mes tactiques prévisibles, il les connaît. Donc lui, il va essayer de contourner mes tactiques ou de me les retourner contre moi. C'est le but. Sinon, c'est pas drôle. Et nous, on n'a aucun intérêt à regarder le match. Donc, et on le voit. C'est-à-dire que quel sportif prépare une compétition sans connaître ses partenaires, sans connaître ses adversaires? Ils sont capables de vous dire les forces et faiblesses de tous les membres de sa propre équipe et il est capable de vous dire quelles sont les forces et faiblesses de l'équipe qu'il va affronter.
Oui, mais le sportif, dans ce cas-ci de sport d'équipe, s'entraîne régulièrement ensemble. Cet entraînement ou cette formation en entreprise, elle est fondamentale à la réussite de l'équipe.
C'est ce qui permet d'avoir les automatismes aussi, quelque part, d'apprendre de répéter en situation, d'être en capacité de répéter des situations pour avoir les automatismes, justement, en cas de crise, d'attaque, etc. Maintenant, ce qui marche aussi, c'est de faire croire à l'adversaire qu'on va peut-être appliquer telle stratégie et, en l'occurrence, renverser. En tout cas, mettre en place un autre schéma, une autre stratégie.
Dans l'état, disons que nos entreprises, déjà qu'ils puissent pratiquer ensemble, je trouve que c'est déjà bien de commencer à mettre des stratégies pour tromper l'adversaire qui est le malveillant. Dans ce cas-ci, j'en connais qui le font. C'est même souhaitable d'ailleurs, parce que là, on va rééquilibrer les forces au sens où les malveillants vont cesser d'avoir le haut du pavé, parce qu'à l'heure actuelle, c'est trop facile, parce qu'on on est juste des fainéants sur le terrain. Fait que c'est très facile de gagner le match contre les entreprises. Mais quand les entreprises vont commencer à s'entraîner, donc déjà se connaître entre eux en tant qu'équipe, là, on avance déjà. J'avais eu une personne sur un panel la semaine dernière et l'incident que cette entreprise a vécu leur a permis justement de se rapprocher et tout le monde a émergé, grandi de cet événement-là. C'est triste qu'ils doivent vivre un événement comme ça pour faire émerger ces éléments-là. D'où l'importance de ces pratiques-là ou de ces faux incidents-là qui sont mis en place justement pour amener l'entreprise à se pratiquer, à vivre ensemble un incident de cyber et d'autant plus de se réveiller, donc de devenir partie prenante. Et dans le cas de l'entreprise en question qui est en agroalimentaire, C'est pas des personnes qui sont hautement technologiques avec de la numérisation mur à mur. C'est des gens qui avaient sur le terrain, donc ont sorti de leur zone de confort, ont intervenu pour permettre à l'entreprise de continuer à fonctionner malgré la panne cyber. Et tout le monde a contribué dans une entité, dans un groupe qui était comme ça, comme une équipe sportive, qui était dans l'action. On a une surprise sur le terrain, on réagit à la surprise. On ne fait pas juste figer et attendre que le ballon passe et oups, il est rendu à côté.
Mais c'est ce qu'il faudrait faire maintenant. Je pense que c'est aussi, selon certains milieux, d'accepter aussi de prendre le temps, justement, pour former et sensibiliser. Parce que selon les milieux, il y a quand même une question, et ce n'est pas à l'encontre des RH ou quoi que ce soit, c'est juste on est sur des projets. Je prends le secteur du bâtiment, par exemple, à titre d'exemple. Clairement, quand il y a des opérations et qu'on est dans le rush, on ne peut pas forcément se permettre de... Ce n'est pas perdre du temps, je ne suis pas en train de dire ça. Mais c'est-à-dire qu'on ne va pas prioriser, finalement, les dirigeants ont tendance à ne pas prioriser certaines choses, notamment, en tout cas, certaines actions en intégrant le risque cyber, alors que ça peut leur tomber dessus du jour au lendemain. Et ils vont plutôt avoir tendance à rester focus sur l'avancée de leur projet, de leur opération, parce qu'il y a tellement d'argent qui est engagé là-dedans.
Oui, là, il y a un côté culturel. Parce que,
ah mais clairement, oui.
En
oui,
fait, en gestion de projet, parce que là, c'est autre chose, ce n'est pas une question de risque cyber, c'est une question de gestion du risque sur un projet. Donc, on en est en fait plutôt sur la gestion de projet. Et pour moi, on m'a toujours expliqué qu'au départ, il vaut mieux prendre du temps sur la conception et ce qu'on appelle la phase initialisation pour que déjà... et ça, on en a déjà parlé ensemble, la question du vocabulaire entre les différents métiers. Ne serait-ce que se comprendre et... Parce que
la base.
Des fois, la base. Mais le même mot, en fonction du métier, a des sens différents, qui fait que quand on est, à un moment donné, en conduite de projet, c'est là qu'on a les incidents, parce qu'on ne s'était pas compris et qu'il y a des écarts, et on dit « mais c'est pas ce que je voulais !» Bah ouais, en même temps, tout le monde pense, c'est ce qu'on avait dit au début, c'est la nuit de noces. Et tout de suite, on se précipite sur la conduite de projet. Mais avant d'aller sur la conduite, mettez-vous d'accord sur le projet. C'est l'initialisation. Il y a toute une phase de, on commence par se courtiser, se connaître et tout, avant de se marier et de se lancer dans l'aventure et de construire une famille. C'est comme pour tout. Tout était gestion de... ça dépend. Ça finit en divorce, je te signale. Et c'est, après, ça coûte cher. Après, Barbie, elle part avec la maison de Ken, la voiture de Ken. Et Ken, il n'est pas content. Donc, à un moment donné, faut voilà.
Mais dans le film, Ken, il a essayé de se révolter et ça n'a pas mené à grand-chose.
Ah, désolé, je ne l'ai pas vu.
Je ne l'ai pas plus vu, mais c'est...
Tu as l'air de connaître, je suis désolée.
Il y a beaucoup de gens autour de moi qui l'ont écouté. J'ai refusé, mais le gros, c'est un spoiler.
Je ne savais pas que tu avais un côté Barbie, ça te va bien, le rose, en fait. Tu devrais essayer plus souvent.
Mais j'ai spoilé le film. Ken, il essaie de se révolter, il échoue. C'est l'essentiel du film.
Ah, oh, mince!
c'est la morale de l'histoire, mais qui revient un peu à ton... juste sur faire du pouce sur ce que tu disais. Sur le divorce. C'est Barbie s'en va effectivement. Ken perd tout et redevient un élément accessoire à côté de Barbie.
Mais en fait, il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas négliger, parce que pour moi, c'est de la gestion de risque, c'est-à-dire que toute cette phase d'initialisation, et en fait, il y a beaucoup de choses qu'on dit dès la conception à intégrer, donc la sécurité, mais le juridique, il y a aussi tout ce qui va être mes interactions, la communication. À un moment donné, il ne faut pas oublier que je deviens une cible parce que j'ai fait fuiter beaucoup de mots magiques et que si sur les réseaux sociaux, sur partout et tout, j'ai mon hashtag trucmuche et que hashtag trucmuche, c'est le centre d'intérêt de mon hacker, et bien en fait, je lui facilite le fait qu'il va me retrouver parce que lui aussi, il va regarder les hashtags pour trouver ses cibles parce que franchement, il est aussi un peu paresseux. Plus l'info est facilement accessible, plus vite il ira et plus vite il rançonnera.
Il est très paresseux. Puis en plus, on lui facilite tellement le travail. Et c'est de plus en plus observé que les attaquants ont frappé dans des projets, là, tu mentionnes des projets de construction par exemple, ils commencent à frapper dans les projets, sachant que les équipes n'ont pas de marge de manœuvre pour agir dans les projets. Donc, en phase d'initialisation, il va commencer à falloir planifier la capacité à réagir à un incident cyber pendant un projet majeur, justement parce que c'est en train de se faire, sont paresseux, fait qu'ils frappent où ça fait mal, fait qu'ils frappent les personnes qui ne sont pas capables de se relever.
Il y a des documents, moi j'ai pu voir des grosses opérations, il y a les documents en tout cas dans la conception des projets, mais ils sont là pour...
Non. Moi je t'explique.
Je suis juste en train de dire que de ce que j'ai observé, il y a les documents, maintenant c'est du marketing, il n'y a pas la sensibilisation, c'est ça que je dis.
Non, mais c'est,
et
pas
c'est
ça.
Là où il y a un problème finalement.
C'est que moi je vois bien les documents, mais les documents ils ont été faits par... Alors A, il a fait tel document. Mais en même temps, comme il ne peut pas tout gérer, parce que sur un appel à projet, il y a tellement de documentation à fournir quand on soumet son offre et qu'on construit son offre, que bah, mes pépères, ils me disent quoi ? Ils m'expliquent tout simplement que bah, y a A qui a rédigé le document 1, j'ai B qui a rédigé le document 2. Je fais, vous pouvez m'expliquer pourquoi dans la même offre, j'ai ces deux documents qui ne sont pas cohérents entre eux ? Ah bah parce qu'il n'y a pas eu le test du couillon pour relire l'intégralité de l'offre chez eux. Mais moi, en fait, je fais, hey, les gars, juste, si vous voulez que je travaille avec vous, va peut-être falloir me sécuriser. Et vous avez juste décidé de ne pas être cohérent et vous pensez que je vais être rassurée. Mais je n'ai pas envie de taffer avec des gens qui ne sont pas cohérents entre eux-mêmes en interne. Mais vous êtes... Et eux, ils sont là, puis ils vous regardent très sérieusement, puis ils vous disent « Ah, mais c'est un projet à 20 millions d'euros. » Je fais bah, « C'est ça, ouais, à ce prix-là, tu penses que je vais payer un truc que vous n'avez même pas relu en interne ?» Mais où est la cohérence ? C'est-à-dire qu'on est au-delà du marketing paillette. Hein. Je sais que là, on en est à « J'ai pas le temps de payer quelqu'un à relire une proposition pour un contrat à 20 millions d'euros. » Et Dieu sait que qu'est-ce que j'en ai à relire des documents où là, je leur dis « Vous savez que c'est juste un problème de français, là ? » C'est-à-dire que c'est même pas, je suis même pas encore à apprécier la prestation que vous me proposez. C'est que déjà, rien que sur la forme, vous vous êtes viandé et vous m'avez donné tellement d'informations sur votre organisation et votre manière de gérer les projets qui fait que c'est rédhibitoire et que je ne veux pas travailler avec vous. Parce que vous m'avez expliqué votre méthodologie de travail. Mais ce n'est pas séduisant du tout. Hein.
Oui, non, mais moi, je parlais de gestion de projet. Je ne parlais pas dans la conception d'objets, dans la conception de solutions. Je ne parlais pas de ça. Je parlais de gestion de projet où moi, j'ai pu voir dès la conception, justement, des projets, la réflexion, toute la mise en place au niveau de la documentation, que, effectivement, pour faire bien, on allait mettre la charte informatique, comment tout ce qui était lié au comportement en matière de numérique, etc. etc. Bon, résultat des courses, ça n'a pas empêché d'avoir des virus, ça n'a pas empêché en réunion entre parties prenantes d'une organisation et parties prenantes d'une autre organisation de se prêter des clés USB, de brancher leur ordinateur à droite à gauche et finalement d'infecter tout. Je parlais plutôt de ça, moi.
T'as jamais vu aussi, tu sais, le copier-coller malheureux parce que comme de toute façon, il n'y a personne qui relit et que comme le document, ils n'en ont rien à foutre et qu'ils ne savent même pas ce que ça veut dire, c'est que juste ils disent « Attends, j'ai coché la case, j'ai fourni le document. » Mais ils ne savent même pas. Ils ne savent même pas à quoi sert le document. C'est-à-dire qu'ils n'en ont même plus le sens.
Complètement, c'est ça.
Et en fait, comme ils ne savent pas le sens, c'est qu'ils n'en ont pas compris les enjeux de ce document. Et c'est là où, bah, quand ils rencontrent des gens comme moi qui ont un peu le vice et qui savent jouer sur les vulnérabilités humaines. Mais en fait, c'est pas qu'on joue sur la vulnérabilité humaine, c'est qu'on joue sur le teubé, quoi. Bah, voilà, toi, t'es abruti, bah, c'est simple, je vais te montrer que t'es un abruti. Et en fait, c'est là où après on dit vous distribuez des claques. Non, en fait, juste, je t'explique à quel point tu peux être con. Donc en fait, moi, je ne fais pas une étude des vulnérabilités humaines. Je fais une étude de la capacité à produire de la connerie. Et sur ça, je suis désolée, mais la source est intarissable. Maintenant, quand je tombe sur des gens qui sont sérieux et qui travaillent proprement, il y a des vrais échanges, des vraies discussions et où on peut commencer à parler de projets et de co-construction d'ailleurs. Parce que la plupart de ceux qui ont bien pensé le truc vont te parler, tu vas aller sur une co-construction, parce que comme ils ont compris que l'humain était au cœur, bah ils t'expriment quel est ton besoin. Et maintenant, je vais t'expliquer comment je vais arriver à te produire et satisfaire ton besoin. Et ça, Bah, heureusement quand même qu'il existe des gens comme ça, mais c'est de la gestion du teubé.
Oui, ben la génération de contrats, oui, justement, qui font juste bourrer des réponses d'appels d'offres avec des contrats qui sont...
Puis le contrat bourré, c'est pas bon.
Non, bourrer un contrat pour faire le contrat bourré, c'est pas très bon. Mais en même temps, j'imagine que tu n'as pas encore vu des contrats générés par ChatGPT. Puis on doit être aveugle de... Ah, j'ai aimé la réaction. On est sur le point de voir des contrats générés ou des réponses à des appels d'offres publics. T'as eu?
J'ai eu une IA générative et sincèrement, le gars, sa technologie, elle n'est pas prête. J'ai fait partie d'un comité de sélection où, sur un appel à manifestation d'intérêt, sur la question des technologies, la boîte a voulu se mettre en valeur en disant mon IA générative que j'ai conçue. Et puis, parce que franchement, vu le niveau de la rédaction, c'était vraiment pas ça. Et le truc, c'est que ça se voit dans la construction même de la réponse, c'est-à-dire que l'équilibre des paragraphes et le code de comment je rédige mon paragraphe. Donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a un problème de paramétrage, hein, parce que au final, c'était tellement la reproduction du même schéma que le bug, et qu'on dit non, mais ça, c'est pas un humain qui a fait ça, c'est pas possible, parce que c'est tellement symétrique qu'à la fin, ça devient illisible.
Oui, et puis de toute façon, comment fonctionne l'enchaînement en intelligence artificielle, il va juste le LLM va juste rebasculer. C'est comme une espèce de chaîne un peu stupide d'enchaînement d'idées qui est symétrique dans ce cas-ci, mais même au-delà de la symétrie, la façon que l'enchaînement des idées se fait n'est clairement pas humaine. C'est l'humain, même le plus fou ne rédige pas de cette façon-là. C'est clair que ça apparaît immédiatement, ce genre de situation-là. Mais on va se retrouver justement avec des éléments comme ça qui se pensent plus brillants que l'autre, comme l'avocat aux États-Unis qui a généré un document qui avait des fausses jurisprudences à l'intérieur. Pas qu'il a voulu fondamentalement faire des fausses jurisprudences, mais lui, il devait être pressé, il a préféré être bourré un soir puis faire générer son texte par l'intelligence artificielle au lieu de ne pas se bourrer.
On apprend
justement
de son erreur.
Lui a appris assez vite à la main. la conséquence était un peu grave pour l'individu. Là, mais
c'est parce qu'on manque encore de maîtrise de cette technologie. Il faut développer les usages parce que la technologie en soi est très intéressante. Par contre, c'est comment je trouve mon équilibre dans la coopération homme-machine. Et ce qui est magique, et c'est ce que j'apprécie, c'est que finalement, sur des tâches qui nécessitent une intelligence et une réflexion et un raisonnement, la machine n'arrive pas à remplacer l'homme. Parce que à un moment donné, il va y avoir quelque chose de pas cohérent si on utilise une IA générative. Parce que très sincèrement, pour en avoir vu le résultat de plusieurs modèles différents, il y en a qui ont c'est satisfaisant sur de la communication globale et générale. D'ailleurs, c'est mieux que certains de tes collègues où tu dis, franchement, au moins, elle fatigue pas. Donc, en fait, il y a moins de fautes d'orthographe, il y a moins de... Enfin, voilà, elle fatigue pas, elle tourne. En revanche, sur des modèles qui sont pas super entraînés, pas encore hyper bien paramétrés, c'est grossier. Et là on voit que c'est pas terrible. Donc à un moment donné, quand la technologie sera à maturité et qu'on aura appris à l'utiliser, on trouvera le bon équilibre et on pourra l'utiliser parce que faut pas oublier qu'elle peut nous faire gagner beaucoup de temps sur certaines tâches. Maintenant, sur d'autres, non, il vaut mieux privilégier l'humain. Il est beaucoup plus fiable, même s'il est imparfait, mais il est tellement plus fiable.
Oui, parce qu'il est capable de raisonner. Puis on revient, on reboucle sur le fait que l'humain a droit à l'erreur. L'humain est capable d'être plus souple, d'être capable de pivoter dans des situations et justement qu'on le ramène en cyber et on le met au centre du cyber et non qu'on met la machine au centre du cyber comme on fait là. On donne la pleine capacité à l'organisation d'améliorer son SI de façon très importante en mettant l'humain là Et en se fiant, l'exemple du AI dans ce cas-ci est très intéressant, mais nous montre à quel point ça dérive et que l'humain doit être recentré au centre des organisations, parce que c'est quand même des organisations d'humains ensemble qui font produire un élément. Et donc, tout cet élément de coopération, pour reprendre un peu ce qu'on a discuté jusqu'à présent, si ce n'est pas présent, on a un problème, on n'a pas de cohésion dans nos équipes. Sinon, c'est du fordisme ou du taylorisme à l'excès, où on est juste en train de... Chacun plante son clou à la chaîne de l'autre et on est ça. On est juste finalement des machines, parce que le taylorisme est une représentation de l'humain, de la machine, que l'humain devienne une machine. Donc, c'est insoutenable parce que l'humain n'est pas une machine. L'humain n'est pas capable d'agir comme une machine. Et il va être capable de créativité, il va être capable de d'autres choses, d'adaptabilité. S'il y a une surprise, il va être capable. La machine va juste planter le clou à la même place, même si la machine est décalée. L'humain va prendre une décision, il va être capable de bouger et de suivre.
Ben, d'ailleurs, quand tu parles de l'humain et de la machine, si l'erreur est humaine, bon, j'ai tendance à dire que souvent la faute est organisationnelle, mais notre société accepte plus facilement l'erreur humaine que l'erreur de la machine. Regarde les véhicules autonomes. Quelqu'un qui va avoir un accident parce qu'il va être fatigué, parce qu'il aura été alcoolisé et tout, c'est des choses qu'on est en capacité, même si on va condamner l'accident qui a eu lieu, on est en capacité de comprendre. Voilà. Le côté excusable de l'erreur, c'est autre chose. Mais par contre, le véhicule autonome, il n'a pas le droit d'être bourré, lui. On n'accepte pas ça, on ne comprendrait pas. On va dire, c'est quoi ce paramétrage tout pourri? Donc, en fait, là aussi, pour les organisations, à un moment donné, toutes celles qui seraient tentées de dire « j'ai automatisé, j'utilise du high-tech pour répondre à votre besoin, j'utilise des technologies », faites très attention parce que votre client sera en capacité de comprendre l'erreur d'un de vos collaborateurs humains. Par contre, la technologie que vous allez utiliser pour satisfaire le besoin du client avec la technologie bug, vous allez avoir un problème. Moi, en tant qu'ancienne DRH, je peux assurer que mes fournisseurs de systèmes d'information sur les logiciels paye au moment de la paye, quand ça buguait parce qu'ils m'avaient fait une mise à jour à la con au moment de la saisie des payes. Mais quelle idée de lancer une mise à jour au moment de la saisie des payes?
C'est technocentré.
Exactement. C'est surtout qu'en fait, comme je lui ai dit, je vais faire une mise à jour sur le logiciel de ta paye, connard. Tu vas voir, parce que nous, il y a eu un gros problème en interne. Parce que le retard pris, c'est un retard pris prêt pour... Enfin, vous voyez, il y a des conséquences humaines qui ne sont vraiment pas cool. Et en fait, eux, ils n'avaient même pas anticipé que si ça buguait, le fait de retarder le paiement de certains salaires pouvait mettre en difficulté des salariés qui allaient se retrouver à découvert avec des agios, avec toutes les difficultés. Et le problème, c'est comment après, ils se retournent contre l'organisation en disant « à cause de mon employeur, je suis dans la merdouille ». Non, à cause du logiciel de ton employeur et du fournisseur. Mais là aussi, c'est pas une question d'erreur, c'est pour moi une réflexion non globale du produit que je livre et des conséquences de dysfonctionnement de mon produit pour mes clients. Donc pour moi, il y a un bug dans l'analyse de risque, parce que l'analyse de risque n'était pas globale.
Ah, mais c'est encore d'oublier que l'humain n'était pas central à l'opération de la machine. Mais on revient toujours sur le fait, puis dans ce cas-ci, cet exemple-là aussi est ça. Et représente ça, c'est que le système vit pour lui-même. Le système ne vit pas pour les humains qui servent à améliorer leur vie. On est vraiment dans un contexte où on est pour nous-mêmes. C'est complètement fascinant tout cet élément-là. On va conclure sur ça. On a quand même fait un bon moment là-dessus. Quelques folies au travers qui sont peut-être pas perceptibles à l'écoute finale, mais quand même qui ont été très intéressantes et très rebondissante. Donc, je vous remercie énormément. C'est toujours un énorme plaisir de faire ça, en plus en présentiel, quand on a l'occasion de le faire justement comme ça. Ça a une dynamique tout autre et tout autant plus intéressante. Et merci énormément pour l'accueil. Je vais le divulguer, je suis à quoi de Kida. Donc, mais comment vous avez écouté, ça c'est plus grave, je ne serai plus là. Ça va être passé depuis longtemps. Fait que vous ne pouvez pas me cambrioler parce que je suis de retour à la maison quand vous allez écouter. Mais merci énormément pour l'accueil. C'est très, je me sens privilégié de justement d'avoir...
D'être venu à l'Académie militaire de Saint-Cyr, oui. Couette-Quidon.
Oui.
Ah oui, bah, c'est l'école de nos officiers et puis bah, c'est des partenaires du projet Drift.
Très heureuse de t'avoir accueilli ici, que tu puisses en tout cas avoir le privilège de voir l'Académie militaire.
Merci.
Et merci à toi. You gotta.